Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Bon réveil, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin sur Radio Classique. Évidemment donc le reconfinement décrété hier soir par Emmanuel Macron à compter de ce soir minuit et jusqu'au 1er décembre à minima. Confinement allégé ou plutôt couvre-feu pour les actifs car il est permis de sortir pour aller travailler à l'échelle médecin, faire ses courses ou même prendre l'air. Bonjour Éric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors très concrètement ce matin, qui va rester ouvert, qui va devoir fermer? La liste n'est pas tout à fait la même qu'en mars.
Effectivement, une petite différence avec mars dernier, l'activité des services publics, des usines, des exploitations agricoles et du BTP pourra se poursuivre. Pas question de paralyser complètement l'économie comme cela avait été le cas au printemps. Tous les commerces alimentaires et ceux liés à la santé pourront ouvrir. Même chose pour toutes les activités qui permettront de favoriser le confinement, par exemple les blanchisseries, un magasin de réparation d'ordinateurs, les agences de travail temporaire pourront fonctionner. Ce sera aussi le cas des commerces d'équipements automobiles. Tout sera fait pour ne pas pénaliser les personnes qui peuvent aller travailler, que ce soit en usine ou dans des activités agricoles ou dans toute activité où le télétravail n'est pas possible. C'est donc un coup dur pour de nombreux commerces qui comptaient doper les ventes pour les fêtes de fin d'année. Un point sera effectué tous les 15 jours pour évaluer les commerces qui pourront rouvrir.
Voilà, les bars, les restos ferment, les hôtels, eux, restent ouverts, mais y aura-t-il du monde? On se pose la question. C'est celle, évidemment, du choc économique. Éric, Bercy et les économistes estiment que ce choc sera cette fois moins violent qu'au printemps.
Voilà, en avril dernier, mois entièrement passé sous le régime du confinement, eh bien, l'activité avait chuté de plus de 30% en France. Lors de ce deuxième confinement, eh bien, l'impact sera moindre. Cela est lié au maintien de l'activité dans les usines et le BTP, deux secteurs d'activité qui seront bien moins pénalisés qu'au printemps. Hier, le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, a évalué l'impact d'un reconfinement strict d'un mois entre 2 et 2,5 points de PIB sur l'économie française, soit environ 50 milliards d'euros. Ce sera donc un peu moins. Les services de Bercy chiffrent le coût pour l'État du chômage partiel aux exonérations de charges, en passant par le fonds de solidarité pour les entreprises, entre 12 et 15 milliards d'euros par mois de confinement. Par ailleurs, Emmanuel Macron a évoqué hier la mise en place d'un plan spécial pour les indépendants et les très petites entreprises.
Merci Éric Mauban. Alors au chapitre des mesures de soutien, Emmanuel Macron a promis que la prise en charge du chômage partiel à 85% par l'État, elle sera prolongée jusqu'à fin décembre. Elle devait, cette prise en charge à 85%, s'alléger au 1er novembre. Le fonds de solidarité, lui, prendra en charge les pertes des entreprises jusqu'à 10 000 euros. Bercy travaille aussi, vous le savez, sur une aide fiscale afin d'inciter les bailleurs à réduire les loyers aux entreprises, sans doute via un crédit d'impôt. La CPME, par ailleurs, assure que Paris a obtenu de Bruxelles hier le droit de prolonger d'un an supplémentaire le délai de franchise avant remboursement des prêts garantis par l'État, le remboursement pourrait donc ne commencer que dans 2 ans. Alors comme d'habitude, passé le grand message du président, les mesures annoncées vont être détaillées aujourd'hui par le Premier ministre. Conférence de presse ce soir à 18h30 de Jean Castex. Avant cela, il sera le Premier ministre devant le Parlement où il présentera les mesures. Elles seront soumises à un vote. Alors voyons maintenant aussi les réactions. Dans Le Parisien, Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF, dénonce un choix déséquilibré entre la santé et l'économie. Il prédit une perte de 50 à 75 milliards d'euros, 2 à 3 points de PIB donc en novembre, proche donc des prévisions du gouvernement. Geoffroy Roux-de-Bézieux qui demande que l'on rouvre les commerces dans les 15 jours. Il craint ainsi aussi que l'on ait à reconfiner au mois de mars. Les commerçants spécialisés dits non essentiels, eux, sont très inquiets. Ils sont 330 000 en France. Traditionnellement, ils font aussi l'essentiel de leur activité entre le 1er novembre et le 15 décembre. Écoutez Emmanuel Leroc, c'est le directeur général de la Fédération Procos pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé.
Pour des secteurs comme la restauration, comme le textile, comme le cadeau, ou des secteurs comme la vente de chocolat, on ne peut pas ne pas être très inquiet, puisque ces secteurs-là, ils se sont déjà endettés. Et forcément, compte tenu de ce que représentent les 2 mois de fin d'année, on ne peut pas être rassuré. Donc on ne peut pas être rassuré pour des magasins pris individuellement et on ne peut pas être rassuré pour des réseaux dans leur globalité. Si le sujet du loyer est réglé, que le sujet du chômage partiel est réglé, évidemment, ça aidera à limiter les risques.
Voilà, les risques étant concrètement une vague de faillites, notamment dans l'habillement, durement touché depuis 6 mois. Hier, l'enseigne de prêt-à-porter masculin Célio a présenté à ses salariés un PSE qui prévoit la fermeture de 102 magasins sur 500 en France et 383 suppressions de postes. À noter que l'Allemagne, elle aussi, opte pour le confinement limité pour 1 mois à partir de lundi, avec fermeture des restaurants et des institutions sportives et culturelles. Le tour de vis sanitaire en Europe fait plonger les bourses mondiales. Hier, Paris cédait 3,37%, Francfort moins 4,17%, Milan moins 4,06%. À Wall Street aussi, le Dow Jones perd 3,43%, le Nasdaq moins 3,73%. La défiance des investisseurs qui plombe aussi le pétrole, moins 5% hier sur le WTI américain et le Brent de mer du Nord.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
En France, cette question, faut-il stopper le rachat des chantiers de l'Atlantique par l'italien Fincantieri? L'accord pour l'opération arrive à échéance ce samedi, le 31 octobre. Ça a déjà été repoussé 3 fois. Le Sénat, hier, s'est emparé du dossier et n'a pas caché ses inquiétudes sur le prix de l'opération, d'abord, qui est jugé trop faible, mais aussi et surtout parce que les chantiers de l'Atlantique sont détenteurs de savoir-faire stratégique et que l'acquéreur, Fincantieri, travaille de plus en plus avec la Chine. Céline Cajoulis.
C'est au chantier de l'Atlantique que sera fabriqué le prochain porte-avions français. Et le risque avec l'italien Fincantieri, c'est de perdre notre souveraineté en matière de production de navires de guerre. Sophie Prima, présidente de la commission des affaires économiques du Sénat.
Depuis quelques années, Fincantieri a renforcé un partenariat avec un géant public chinois qui s'appelle CSSC. Pour nous, il y a un danger de transfert de savoir-faire, de transfert de technologie, de transfert de compétences, mais aussi à court terme de survie de la production navale en Europe.
Car en France, c'est presque une tradition, on ne sait pas protéger nos géants nationaux. Bernard Barbier, ancien de la DGS.
En France, on n'a pas ce réflexe de privilégier des entreprises françaises pour garder finalement ces technologies souveraines chez nous. Regardez le sort qui a été donné à Alcatel. La première entreprise mondiale qui a développé le GSM deuxième génération a été rachetée par Nokia. Il est découpé en petits morceaux. Et sur la cinquième génération, 20 ans après, la technologie maintenant est chinoise.
Et pour sanctuariser ces industries, certains appellent à la création d'un fonds stratégique dédié aux entreprises de défense.
En bref, le mariage LVMH-Tiffany devrait finalement bien avoir lieu. Selon le Wall Street Journal et les Échos ce matin, les deux parties seraient proches d'un accord financier qui permettrait de clore le bras de fer juridique opposant les deux groupes avec un rabais de 400 à 500 millions de dollars sur le prix initial de 16 milliards 200 millions. Une nouvelle charrette en vue chez Boeing. L'avionneur américain va devoir se séparer de 7000 salariés supplémentaires d'ici fin 2021. Au printemps, Boeing avait déjà annoncé 19 000 licenciements. Qui pour diriger l'OMC? Eh bien, c'est la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala qui tient la corde, à une opposition près, tout de même celle des États-Unis qui lui préfère une sud-coréenne. Décision renvoyée au 9 novembre après la présidentielle américaine. Et puis les plateformes de streaming non européennes devront investir 20 à 25% de leur chiffre d'affaires en France dans la production d'œuvres françaises ou européennes, annonce hier de la ministre de la culture Roselyne Bachelot. En échange, les Netflix et autres Amazon Prime Video verront la chronologie des médias raccourcie, ce qui devrait leur permettre de diffuser plus vite les films après leur sortie en salle. Elles doivent actuellement attendre 3 ans. Et puis carton plein aussi pour Gilead avec son Remdesivir, utilisé pour les malades du Covid. L'antiviral, qui est le seul autorisé de façon permanente aux États-Unis contre le virus, a rapporté au laboratoire au troisième trimestre 900 millions de dollars. Les marchés pour finir, je vous redonne les grands indices. Le CAC 40, moins 3,37%. À Wall Street, on perd également de l'ordre de 3,5%. À noter que Tokyo est en baisse ce matin, lui aussi, de 0,3%.